Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Serroc.
Donc vous êtes une montpelliéraine, une pure jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices, amis auditeurs, bonjour. Voilà donc une nouvelle édition de Racontez-nous votre Montpellier. En faisant vos courses au supermarché, vous avez probablement été sollicité par des bénévoles des banques alimentaires. Nous verrons ensuite quel rapport avec mon invité, repérable avec leur chasuble rouge, pour contribuer à la constitution de leur stock. Cette question de l'aide alimentaire aux personnes en difficulté revient chaque hiver, plus fortement, comme inexorablement. Raison de plus pour inviter le porte-parole des Restos du Cœur, une des principales associations qui, avec la Fondation Abbé Pierre, le Secours Populaire, le Secours Catholique et d'autres, font vivre la solidarité, concrètement, quotidiennement. Alain Capillon, merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes le président des Restos du Cœur de l'Hérault. Vous avez 74 ans. Vous êtes ingénieur agronome. En 99, vous êtes arrivé à Montpellier pour rejoindre le CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique, pour le développement. Vous y avez dirigé le département cultures annuelles. Puis de 2004 à 2013, vous avez été professeur à SUPAGRO, aujourd'hui dénommé l'Institut Agro, donc l'École nationale supérieure agronomique de Montpellier. Votre implication au Resto du Cœur a commencé au centre de distribution d'Aniane. Elle s'est prolongée par l'organisation du service de soutien à la recherche d'emploi, nous en parlerons, avant qu'en février 2022, vous preniez la présidence des Restos du Cœur de l'Hérault. Mais avant de parler des Restos du Cœur, racontez-nous votre Montpellier. Quels sont les lieux à Montpellier, vous y êtes donc depuis près de 25 ans, que vous appréciez particulièrement, que vous êtes attaché ou que vous conseillez à vos proches?
Alors bonjour et merci de m'accueillir. La première chose que j'ai à dire, c'est que pour moi, Montpellier, vu depuis ma profession, c'est une grande capitale agronomique.
Oui.
Il y a non seulement le CIRAD, mais il y a aussi l'INRAE, il y a l'IRD, il y a
un potentiel de recherche considérable.
Il y a un potentiel de recherche considérable et un potentiel de recherche qui est aussi beaucoup tourné vers le sud. Le CIRAD,
voilà, le sud, c'est-à-dire de l'autre côté de la Méditerranée.
Et au-delà, ça peut aller jusqu'en Asie, donc c'est aussi l'autre côté de la Méditerranée. Donc moi, j'y suis arrivé pour des raisons professionnelles, mais rapidement, on voit bien qu'à Montpellier, l'agronomie, c'est important et qu'on est chez soi d'emblée, sur le plan professionnel. Alors après...
Sans contexte, la proximité de la production agricole, même si ça n'a pas été votre spécialité, là, qui imprègne la ville. Bon, je parle de la vigne, hein, bien sûr.
Oui, tout à fait. Alors, j'étais surtout un homme des grandes cultures, c'est-à-dire du blé, des betteraves, etc. Et je me suis mis à la vigne en arrivant à Montpellier, effectivement, et avec un vrai bonheur. Alors, l'autre aspect de Montpellier pour moi, c'est la culture.
Ah oui, parce que vous avez une passion pour l'opéra, notamment.
Voilà, c'est ça. Donc là, il y en a deux à Montpellier. Donc il y a tout ce qu'il faut. Et alors, je ne vous cacherai pas que depuis presque 2 ans, je ne sors pas beaucoup, puisque
oui,
je
j'imagine.
Suis assez pris. Mais c'est un vrai bonheur que d'aller soit dans le vieil opéra, soit au Corum, pour voir un certain nombre d'opéra, et y compris avec une montpelliéraine, Marianne Crébassa, qui est connue et qui est une figure et qui est assez formidable. Alors, l'autre aspect de Montpellier pour moi, c'est le musée Fabre. Parce que le musée Fabre, alors d'abord, OK, il y a Soulages,
hein,
c'est une particularité qu'elle partage maintenant avec Rodez. Mais il y a aussi tout un tas, il y a Basile, qui est là, mais il y a aussi Courbet. Il y a aussi Zurbaran, il y a aussi Delacroix, où il y a vraiment une richesse de ce musée qui est assez, assez considérable.
Sans compter, bien sûr, les expositions temporaires qui viennent enrichir l'offre.
Là, je n'étais que sur le permanent. L'autre chose qui me retient à Montpellier, c'est tout ce nouveau sud maintenant, Montpellier, avec des architectures... relativement différente, des immeubles neufs assez audacieux en architecture. Et c'est assez intéressant de se balader dans ce coin-là. Donc, c'est un peu la curiosité. On découvre à chaque fois quelques anicroches à la rectitude. Voilà.
Voilà, c'est ça.
Et alors, l'autre chose que j'ai à dire, c'est que Montpellier, j'ai aussi appris à le connaître, alors là, avec les Restos du Cœur.
Oui.
À travers le Petit Bar, la Mosson.
Ah, c'est-à-dire les quartiers populaires.
Les quartiers populaires, qu'on dit difficiles, mais avec lesquels on peut avoir un certain nombre de contacts avec des personnes qui
voilà,
y vivent.
Voilà, votre parcours de chercheur et d'universitaire ne nous avait pas donné, quoi.
Voilà, tout à fait. Et donc là j'ai découvert avec plaisir, et je me suis fait d'ailleurs un certain nombre de relations dans ces quartiers. Voilà.
Alors, dernière question, donc vous avez vu la ville bouger, croître en population, bon, l'effet que ça a eu sur l'urbanisation, quel regard vous portez là sur les changements que la ville, aujourd'hui métropole, a connus pendant les deux décennies écoulées?
Alors, la première chose, c'est que Montpellier reste une ville jeune.
Avec beaucoup d'étudiants,
donc c'est une ambiance tout à fait agréable. L'autre aspect, c'est que c'est une ville écolo. Et donc, aujourd'hui, on peut pester quand on est en voiture, mais parce qu'il y a une ligne de bus, une ligne pour les vélos. Mais finalement, c'est bien. Et on s'y adapte. Et moi, je pense que c'est vraiment un vrai progrès par rapport au Montpellier d'avant. Voilà.
Très bien. Alors, merci de cet aperçu là sur donc, Alain Capillon, le Montpellierain. Et on va parler maintenant à Alain Capillon, donc Resto du Cœur. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous engager dans le Resto du Cœur, là, donc, je l'ai dit à Agnan à l'époque, quelle a été la motivation, le déclic? Parce que vous aviez du temps, depuis peu retraité, vous pouviez faire autre chose.
Dès que j'ai été à la retraite, j'avais toujours dit que je voulais travailler dans l'humanitaire et dans l'humanitaire en France. Et donc ça, c'était déjà, ça vous donne la catégorie d'associations que je peux fréquenter. Et puis, une autre caractéristique des Restos du Cœur, c'est que... on n'y fait pas de religion, de politique, ni d'économie. D'ailleurs, les bénévoles s'engagent à ne pas faire de politique,
c'est une neutralité qui est imposée.
Une neutralité, ils peuvent avoir leur opinion, ils peuvent avoir des engagements, mais au Resto du Cœur, on reste comme ça. Et comme on a un accueil inconditionnel, quel que soit l'état judiciaire, national, l'état des personnes qui ont faim, on les accueille et on les dépanne. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup plu. Donc je me suis inscrit. D'abord, je suis allé à Agnan parce que c'était pas très loin de mon domicile. Et puis ensuite, très vite, Agnan est un tout petit. C'était le plus petit centre des Restos du Cœur. Grosso modo, ils n'avaient pas besoin de moi pour faire la distribution. Et j'ai été happé par le siège pour créer le soutien à la recherche d'emploi. Alors.
Qui a été une des premières diversifications dans l'Hérault, en tout cas, des Restos du Cœur.
Non, il y avait déjà eu de longues dates des diversifications. On a fait de l'insertion, on va fêter les 20 ans de l'insertion, on a fait les Toits du Cœur. On avait déjà ça, mais le soutien à la recherche d'emploi n'était pas fait. Donc, on a formé des bénévoles avec des formations de bon niveau. Et puis, dans chaque centre, il y avait la possibilité, pour les gens qui recherchaient de l'emploi, de discuter avec un bénévole.
Donc, il y avait un interlocuteur dédié à cet accompagnement, donc.
Tout à fait. Et tout ça, c'était des bénévoles qui ont été formés. En 6 ans, on a dû en former 40. Voilà. Et puis, on a eu une convention nationale avec Pôle emploi. Et on a décliné cette convention dans l'Hérault. Et on avait, par secteur de l'Hérault, un correspondant Pôle emploi, un correspondant Resto, qui s'entretenait régulièrement et qui traitait un certain nombre d'affaires, de problèmes, de cas. Évidemment, les cas, en général, qu'on a au Resto du Cœur, ce n'est pas des cas très faciles. Voilà. Ce que je dois dire aussi, c'est que le soutien à la recherche d'emploi, comme les autres aides à la personne, sont ouvertes à tous.
C'est-à-dire le principe fondateur des Restos du Cœur que vous avez indiqué, là, se prolonge, s'amplifie. En plus de l'aide alimentaire, on peut le résumer comme ça. Là.
Alors, pour être exact, dès la définition coluchienne des Restos du Cœur, il y avait le fait de les aider à sortir de la pauvreté et de la précarité. Et donc, de faire de l'aide à la personne.
Donc, ça va au-delà du dépannage alimentaire quotidien.
Bien sûr.
Pour amener les gens sur les chemins quand même d'une émancipation ou d'une amélioration de leur vie, quoi.
Oui, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on distribue, pour les gens qui sont... Qui ont droit à la distribution hebdomadaire de denrées, on les voit toutes les semaines. Les personnes démunies, en général, ils ne connaissent pas leurs droits. Et donc, on a des bénévoles qui connaissent les droits, on a des logiciels qui nous permettent de détecter l'absence d'une allocation, etc. Et on les aide à l'obtenir.
Le RSA, notamment ?
Alors, le RSA, oui, mais le RSA... En principe, les gens, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont droit au RSA et qui ne l'ont pas. Mais par contre, il y a des pensions de reversion pas versées. Il n'y a pas demandé. Il y a des allocations logement pas demandées. Donc
ça fait des ressources possibles.
Ça fait des ressources possibles
qui
ne
sont pas mobilisées.
Qui ne sont pas mobilisées. Et donc, on aide les personnes, on les accompagne dans le fait de demander l'allocation et de l'obtenir.
D'accord.
On a aussi tout un tas d'autres facettes. On fait du conseil budgétaire et du microcrédit. On fait Alors, on fait aussi pour le bien-être. Il y a, dans un certain nombre de centres, nous avons une coiffeuse qui coiffe les gens. On fait de la distribution de vêtements. On envoie les enfants, les seniors et les familles en vacances.
Ah oui.
Pas toutes, mais...
Dans l'Hérault, par exemple, ça représente
dans
combien de personnes, grosso modo ?
Alors, on est aux alentours de 150-200 personnes.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Et donc, on a les seniors, on a même emmené les gens de la rue en vacances. On fait du soutien scolaire, et ça, c'est important, parce qu'on ne veut surtout pas que les petits-enfants de ceux qui ont été aidés par Coluche reviennent nous voir pour être aidés.
Bien sûr.
Et donc pour ça, il faut lutter contre l'échec scolaire, donc du soutien scolaire. Il faut aussi lutter contre les problèmes qu'on peut avoir dans les premières années d'existence. Et bientôt, c'est pas tout de suite, mais bientôt, sans doute vers la fin de l'année 2024, nous allons prendre en charge la totalité de l'alimentation et de l'hygiène des enfants de moins de 3 ans.
Donc ça fait... Alors, on est dans la description de vos activités, donc on reviendra sur notre question là un peu plus tard. Alors, pour faire tout ça, combien de bénévoles à l'heure actuelle dans l'Hérault ?
Alors, 1300 bénévoles dans l'Hérault, réguliers, c'est-à-dire qui consacrent une demi-journée ou une journée ou plus régulièrement. Et 600 bénévoles d'un jour qui nous aident pour les collectes, pour les manifestations sportives. Où
qui viennent en appui,
etc.
D'accord.
Qui viennent en appui.
Et alors, vous avez besoin de compléter vos troupes, le mot est inexact, bien entendu, mais
alors,
vos équipes.
Si je rêve, il me manque 300 bénévoles réguliers.
Alors, on posera la question, je reviendrai à la fin là, pour qu'on dise aux auditeurs comment on peut s'y prendre. Alors, j'ai parlé, bon, mais c'était peut-être approximatif en tout cas, des banques alimentaires qui sollicitaient les consommateurs là, samedi dernier. Avez-vous des liens avec les banques alimentaires ? Sinon, qu'est-ce qui se passe ?
Alors, la banque alimentaire, elle aide les associations, elle donne de la nourriture aux associations. Nous, on ne n'émarge pas à la banque alimentaire. On a notre propre ressource au niveau national et donc on n'émarge pas à la banque alimentaire. Cela dit, s'il s'agit de se donner un coup de main, de s'aider, il n'y a aucun problème.
D'accord. Alors, combien de points de distribution dans l'Hérault et combien dans la métropole, hein, vous avez ces
Alors,
chiffres
il y a
en 20, tête.
Il y a 28 centres dans l'Hérault. Il y a 7 centres à Montpellier auxquels on peut rajouter 4 centres à la
périphérie,
ça fait 11 dans la métropole. Et ce qu'on peut dire, c'est que la métropole de Montpellier, c'est à peu près la moitié de notre soutien alimentaire.
Ouais, mais ça correspond à peu près à la moitié de la population du département, quoi. En masse. Hein, d'accord.
Si vous voulez, Montpellier et métropole, c'est la moitié. Béziers, c'est 20%. Et après, les autres, c'est plus petit.
Alors, avant de parler de la saison, de la campagne, comme on dit, qui démarre, bilan de la saison antérieure, là, combien de repas distribués ? Et puis peut-être
alors,
une panière plus générale. Bon, quel trait saillant là, de cette saison passée ?
Alors, la dernière saison, 4 millions de repas distribués dans nos centres, nos 28 centres, sous forme de denrées. Hein. 50 000 repas au Camion du Cœur, qui est tout proche d'ici.
Hein, oui, Place Albert Ier.
Place Albert Ier. 25 000 personnes aidées.
D'accord, c'est considérable.
Et
oui.
Si on regarde le nombre de bébés qui sont dans les familles qu'on soutient, c'est à peu près 1 500.
Très bien. Alors, la nouvelle campagne commence, là, depuis quelques jours. J'imagine que les auditeurs et les auditrices ne seront pas surpris quand on va regarder comment elle se présente, c'est-à-dire avec des difficultés. Alors, que se passe-t-il ? Comment la situation économique et sociale impacte les Restos du Cœur ? Et comment faites-vous face à cette situation plus compliquée qu'antérieurement ?
Alors, je ne vais pas vous citer trop de chiffres, mais nous achetons, les Restos du Cœur achètent au niveau national un tiers des repas qu'ils distribuent. Ce tiers de repas qu'on distribue, il y a 2 ans et demi, c'était 2,5 millions d'euros par semaine.
Par semaine, France, d'accord. Pour la France entière. Hein.
Oui. Aujourd'hui, c'est 5 millions.
Ah d'accord.
Alors, vous voyez bien que ce n'est pas que l'inflation.
Il y a deux phénomènes. Donc, il y a davantage de personnes qui se tournent vers vous.
Il y a une augmentation considérable de la précarité. Ouais. Et il y a une augmentation des prix avec l'inflation.
Donc, ces deux phénomènes, bon, effet de ciseau, là, comme disent les économistes, parce que ça conduit, je dirais, cette courbe-là qu'on peut imaginer, conduit, j'imagine, une tension sur vos capacités à répondre à cette croissance de la demande et à la croissance afférente des budgets, quoi, du coût.
Oui, alors les dons et subventions n'ont pas suivi la courbe d'augmentation de la précarité. Alors, si vous voulez, on a lancé un cri d'alerte parce qu'il est, c'est réel. C'est-à-dire que si on ne fait rien au niveau national, dans 2 ans, on est à 250 millions de déficit et on ferme la
porte. C'est-à-dire, voilà, oui. Voilà. C'est-à-dire, ça devient ingérable.
Voilà. Donc, il a fallu se résoudre à diminuer la quantité qu'on distribuait aux personnes accueillies.
Et alors, ça se traduit comment, là, ce...
Alors, ça se traduit d'une
façon... Nombre de repas
Alors, pour avoir régulièrement une aide alimentaire régulière au Resto du Cœur, il faut avoir un reste à vivre qui est inférieur à une certaine somme qui varie. Elle variait entre l'hiver et l'été. Elle était plus forte en hiver qu'en été. Aujourd'hui, on a un seul barème et c'est le barème d'été. Donc il y a un certain nombre de personnes qui, l'année dernière, avaient été aidées en hiver seulement, qui ne sont plus aidées.
D'accord.
1 000 à 2 000 personnes dans l'Hérault. Et puis, ça, c'est un premier... Mais le vrai pas, c'est qu'on a supprimé 2 repas par semaine à tout le monde.
Donc ça donne de combien à combien par semaine ?
Alors une personne seule avait 9 repas par semaine, elle n'en a plus que 7. Et les personnes dans les familles avaient 6 repas par semaine, ils n'en ont plus que 4.
Ça doit être un crève-cœur pour vous et pour les bénévoles devoir reculer par rapport au front des besoins alimentaires, d'être contraint d'apporter des services qui sont en recul. Ouais.
C'est un crève-cœur à tel point qu'il a fallu... moi, j'ai visité à peu près tous les centres des Restos du Cœur de distribution pour dire aux bénévoles que c'était... si on ne respectait pas cette règle, on fichait la boutique en l'air, quoi. Hein, c'était fini.
Et alors, comment ont-ils réagi ? Parce qu'après, c'est à eux. Hein, ils allaient devoir l'expliquer aux personnes qui se présentent.
Donc, c'est un peu délicat, j'imagine. D'une part, eux, il n'y avait pas qu'eux, parce qu'on a eu tout un soutien logistique. D'abord, la presse en a parlé abondamment avant qu'on entame la distribution. Ensuite, nous avons des affiches dans plusieurs langues montrant que c'est pas le bénévole qui refuse, c'est l'ensemble du dispositif. Alors, autre élément, les bénévoles, c'est un vrai crève-cœur, c'est certes, mais il y a deux réactions importantes. La première, c'est de regarder plus attentivement si les démunis ont bien eu tous leurs droits.
Oui, c'est-à-dire troubles, si j'ose dire, porter une attention particulière aux ressources autres que l'aide alimentaire.
Voilà, aux ressources possibles, allocation logement, pension de reversion, etc. Bon. La deuxième chose, c'est que au niveau de l'aide à la personne, tout le monde y a droit. Quand j'étais au soutien de la recherche d'emploi, je plaisantais en disant « un PDG au chômage vient nous trouver, on l'aide ».
C'est un cas de figure qui n'a pas dû se présenter.
Bien sûr qu'il avait un revenu qui était supérieur à notre...
Au manque à vivre, bien sûr.
Voilà, reste à vivre. Bon, donc là-dessus, ça veut dire qu'on peut aussi, par exemple, dans l'Hérault, on a monté un camion vestiaire. Alors, on a 28 centres. Dans ces 28 centres, il y en a qui sont grands, avec une pièce qu'on peut réserver au vestiaire. Ça va très bien. Mais on ne peut pas mettre ensemble les aliments et les vêtements.
Bien sûr, pour des raisons évidentes.
Pour des raisons d'hygiène.
Voilà.
Donc, il y a un certain nombre de centres qui, n'ayant pas, ayant une seule pièce, par exemple, ne pouvaient pas distribuer de vêtements ou ne pas en distribuer beaucoup.
Faute de place.
Et donc, on a monté un camion, comme le camion qui va à Albert Ier, là, dans lesquels on a des barnums, on a des tables, des vêtements, et on fournit les vêtements aux personnes voilà. qui sont inscrites chez nous, qu'elles aient ou non l'aide alimentaire. Voilà.
Très bien. Alors, un mot sur, comme on dit, le profil, les caractéristiques bon, sociales et autres des personnes qui se tournent vers vous, qui bénéficient de vos aides. Peut-être un lieu commun qui dit que bon, il y a davantage de jeunes. On a beaucoup parlé de la précarité chez les étudiants là, au moment du Covid et surtout, hein, me semble-t-il, c'est plus inquiétant depuis. Quelle est la situation dans l'Hérault de ce point de vue ?
Alors, on a à peu près la même composition sociologique, si je puis dire, qu'avant, à savoir des célibataires au chômage. Ou
hommes ou femmes, donc.
Hommes ou femmes, oui, tout à fait. On a des femmes avec des retraites ridicules et qui sont obligées de venir. On a des familles monoparentales, donc une femme et un enfant pour 90%. Et puis on a eu aussi quelques travailleurs pauvres, c'est-à-dire des gens qui travaillaient mais qui avaient des
oui, un phénomène aussi relativement récent.
Oui,
qui ont une activité salariée régulière, mais qui ne leur suffit pas pour vivre décemment. Oui.
Et c'est là que l'inflation joue doublement. Mmh. Elle joue vis-à-vis de leur reste à vivre. Donc nous on donne et en plus on paye plus cher. Quoi. Voilà. C'est le. Cette composition, elle est à peu composition sociologique, elle est à peu près standard tout le temps.
Et les jeunes dont qu'on
alors
pas
les
évoqué,
jeunes,
voilà.
Je vais y venir. Pour les jeunes, nous avons il y a 2 ans créé un resto du cœur spécial pour les étudiants au sein de la cité universitaire du Triolet.
Très bien.
On est hébergé par le Crous et on a distribué.
Donc, pour les Montpellierains ou les néo-Montpellierains qui ne seraient pas dans le nord de la ville, du côté des facultés des universités.
Oui, alors en face de Guitcholiac, voilà. Pour ceux qui connaîtraient les hôpitaux et voilà. Pas les universités.
Ce centre, il est dédié aux étudiants.
Il est dédié aux étudiants. On a ouvert spécialement un autre centre de Montpellier, le centre de Soldanel, le petit bar, le samedi matin, spécialement pour les étudiants. Et puis, tous les centres, alors c'est évidemment pas les centres ruraux, mais dans tous les centres, les étudiants qui ont un reste à vivre correspondant à notre truc peuvent venir et ont leur repas comme les autres.
Un mot sur le reste à vivre, bon, vous l'avez évoqué plusieurs fois, pour donner un ordre d'idée. Est-ce qu'il est, c'est le même chiffre, quelles que soient les situations, ou ça fonctionne un peu différemment ?
On n'est pas une administration, donc je ne peux pas vous dire, voilà, on a tel tarif.
Oui.
On a des ordres de grandeur, mais on a le barème, évidemment, il est modulé en fonction de la composition de la famille, en fonction de tout ça. Hein, grosso modo, ce que je peux vous dire, c'est que notre barème est encore, on vient de le baisser, mais il est encore le plus généreux de toutes les associations. Par rapport à une association grande que je ne vais pas nommer, on est double.
Donc ça veut dire que vos portes sont plus largement ouvertes pour
le
coup.
Oui, mais ça veut dire aussi que quand on les refuse, il n'y a pas beaucoup d'autres portes.
Ah oui, bien sûr.
Voilà. Bien sûr. Alors ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'on a parlé des 28 centres, du centre étudiant, mais on a aussi, nous louons 55 logements, 40 dans la métropole Montpellier-Rennes, 15 à Béziers, enfin dans la métropole bitéroise, et nous les sous-louons à un tarif défiant toute concurrence à des familles démunies.
Pendant un certain temps, c'est une espèce de
pendant un certain temps, oui.
De période transitoire, je dirais,
voilà,
vers des formules donc, d'hébergement plus stables. Plus...
Et pendant ce temps-là, les bénévoles accompagnent les gens pour qu'ils retrouvent de l'emploi, qu'ils se refassent une santé, etc. Et donc, évidemment, le turnover n'est pas assez fort.
Bien sûr.
Mais voilà. Mais ça c'est une activité importante, donc à travers le logement. Et souvent, les personnes qui sont hébergées, elles viennent aussi chercher l'alimentation au reste du cœur. Et puis, on a une autre activité dont on va fêter les 20 ans en septembre 2024. c'est le Jardin du Cœur à Villeneuve-les-Maguelones, qui est un chantier d'insertion où nous accueillons 15 à 20 personnes qui sont éloignées du travail, qui ont fait beaucoup de rues, qui ont différents problèmes de santé,
etc. Quelques petits boulots,
pas
d'emploi, etc.
Oui, et même souvent des gens qui se sont désocialisés.
Donc, ils sont petit en dehors des circuits installés retour à l'emploi.
Avec ce dispositif, qui est un dispositif national, hein, on est aidé là-dessus. Mais tous les 4 mois, on reçoit ces gens, on les met au travail, au jardin. On ne veut pas en faire des jardiniers, mais c'est une façon de les resocialiser, de les remettre au boulot. Et puis petit à petit, au bout de 8 mois ou 12 mois, à partir du moment où ils sont prêts à aller au boulot, on leur donne, on les met dans une filière spécialisée de formation par rapport au métier qu'ils veulent faire, soit ils vont directement à l'emploi.
D'accord. Et les résultats sont plutôt satisfaisants, là, avec cette, cette approche.
Alors, on a été un peu laminé par le Covid, soyons clairs, mais là, ça reprend. Voilà.
Ça fait du travail, tout ça, quand même. Hein,
bon, oui, hein. Oui, et puis, si quand je vous disais que ce n'est pas jeune, je crois qu'on a accueilli 400 personnes au Jardin du Cœur depuis 20 ans.
Alors, ça, bon, on a fait en sorte que beaucoup d'aspects méconnus ou carrément inconnus de ce que font les Restos du Cœur soient mis en lumière. Au-delà de ça, est-ce qu'il y a, bon, sur les Restos du Cœur, comme sur d'autres sujets, des idées reçues, des idées fausses, des racontars, je dirais, que vous êtes amené à chasser pour que, bon, les personnes appelées ou invitées à porter leurs dons sachent bien ce que vous faites et comment. Bon.
Alors, le premier misfit, si je puis dire, c'est l'appellation « les Restos du Cœur ». Il y a dessous un outil qui est le relais du cœur. Mmh. Et le relais, ça comporte toute l'activité d'aide à la personne.
Je vous coupe, dans la relation humaine qui s'installe entre les bénévoles et les personnes.
Voilà. Complètement. On a des personnes qui sont dédiées à l'accueil et qui discutent des bénévoles, hein, qui discutent avec les personnes accueillies pour savoir quels sont leurs problèmes, etc. Et petit à petit, comme on les voit toutes les semaines, on les apprivoise, on devient un copain. Et puis, petit à petit, on arrive à intervenir sur leur emploi, sur leurs problèmes de logement, sur leurs problèmes familiaux. J'ai oublié de dire qu'on a une assistance juridique, on a des juristes, alors, au sein du ministère de la Justice, mais aussi des juristes bénévoles,
Qui aide démêler les chevaux administratifs français.
Oui. Et l'année dernière, par exemple, on a aidé 250 personnes à s'en tirer. Voilà.
Alors, on arrive à la fin de l'émission, Alain Capillon. Donc, j'y reviens. Je me dis, tiens, ce serait pas mal que je sois bénévole au Resto du Cœur. Vous avez dit qu'il y avait des besoins. Vous avez un objectif de 300 nouveaux bénévoles. Comment fait-on, là, si on souhaite être bénévole? Comment on s'y prend?
Alors, il y a deux façons. Ou bien vous allez sur le site national et vous remplissez une fiche et on va la voir et on vous contacte.
Ouais.
Ou bien vous envoyez un mail à petitapetitd34, association des
petit à petit,
34,
donc collé là.
point bénévolat, sans accent, bénévolat, @restoducœur.org.
Très bien.
Et là, il y a un service dans l'Hérault de 6 à 7 personnes qui traitent en permanence les demandes pour essayer de mettre les gens dans leur niche de compétences.
De compétences et de proximité géographique également.
Oui, bien sûr. Et on a des gens qui sont à la distribution, mais on en a aussi qui sont à l'informatique. On en a aussi qui sont à la recherche d'argent, qui sont à la formation. Voilà. On a tout un tas d'activités. D'accord. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de
métiers qui nous échappent. Et donc, il y a une période, je dirais, bon, en tout cas, d'intégration, de formation, pour que ça se passe bien et qu'il n'y ait pas mal d'onde, notamment, entre l'idée peut-être inexacte, voire mythique, que les gens peuvent avoir, et la réalité des tâches qu'on les invite à effectuer.
Alors, les bénévoles s'engagent sur 3 ou 6 mois. Et dans ce temps-là, ils suivent 2 formations. Une formation, ce qui est connaître les restos, et une 2e formation rapide sur le panel d'aide à la personne qu'on est capable de faire. Donc, vous voyez, il y a les 2 composantes, la composante restaurant et la composante aide à la personne, qui sont dans la formation de tous les bénévoles. Ensuite, les bénévoles qui veulent se spécialiser dans le soutien à la recherche d'emploi, par exemple, ils vont suivre des formations spécifiques.
D'accord. Et alors, bon, toute dernière question qui va de soi après celle concernant les bénévoles. Vous continuez à accueillir des dons, je suppose, en tout cas, vous le souhaitez. La même chose, parce que mon idée la suivante, c'est qu'il y a une espèce de concentration sur ce sujet-là, cette période après. Bon, ça rentre un peu dans l'oubli, y compris au cœur de l'hiver. On n'y est pas encore, on est en hiver officiel. Comment fait-on si on veut apporter son écho aux actions des Restos du Cœur?
Alors, deux moyens. Un premier moyen qui est d'apporter son écho en nature. On organise un certain nombre de collectes, y compris des collectes dématérialisées, à savoir où on inscrit la somme à la caisse et ça va directement dans au Resto du Cœur, ou des collectes en produits. Traditionnellement, le premier week-end de mars, cette année c'est 1, 2 et 3 mars, c'est la collecte dans tous les supermarchés de l'Hérault pour les Restos du Cœur.
Très bien.
L'autre moyen, c'est d'écrire à AD34 siège, SIEGE, @restoducœur.org, et d'envoyer ces dons. Vous aurez.
Petit chèque.
Un petit chèque. Et puis,
ou un gros chèque.
Ou un gros chèque. Et puis, vous recevrez non seulement une lettre de remerciement, ce qui est bien normal, mais aussi un reçu fiscal.
Très bien, avec l'exonération que ça induit. L'exonération. Au moment où on déclare ses revenus.
Voilà, les trois quarts pour les 1000 premiers euros donnés, et ensuite 66% pour le reste.
Alain Capillon, je vous remercie. Bon, j'espère que ceux des auditrices et auditeurs qui sont intéressés pour apporter leur aide ne manqueront pas de le faire. Et donc, bonne marche dans l'hiver qui commence. Merci à vous.
Eh bien, merci à vous aussi.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis Montpellierenne, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Sarov.
Donc vous êtes une Montpellierenne pur jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.